France Culture.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis qui vont au cinéma et à Marseille aujourd'hui. Les filles désirent en salle demain nous emmènent à la rencontre d'un groupe d'amis, la vingtaine, responsable pour un été du centre aéré de leur quartier. Petite cellule avec ses codes et ses blagues, perturbée par le retour d'une ancienne copine d'enfance, Carmen, qui pendant qu'elle était ailleurs s'est prostituée. Réflexion sur le désir, l'amitié, la sexualité, ce film présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes est aussi une aventure collective issue de 8 années d'atelier et sa réalisatrice, Prince Yakar, est notre invitée.
Ta mère, ça? Bon, c'est Marseille ici.
Ma petite princesse, ça!
Salut! En fait, faut être poli, je crois.
Et si c'était moi qui passais là, vous diriez quoi?
Moi, j'aurais dit ça se voit, Yasmine, t'es une fille bien. Tu crois pourquoi je vais te marier?
Mais tu me maries, toi, maintenant?
Je vais recommencer ma vie à zéro, Omar. Une nouvelle Carmen.
Ça a trop parlé sur elle.
Tu crois vraiment que je veux que tu tombes amoureux de moi?
Oh les gars, ils vont se marier.
Je t'interdis de travailler pour lui.
Mais ça fait quand tu m'interdis quoi que ce soit, toi?
Tu veux recommencer à zéro, tu veux replonger avec lui?
Je veux un petit bisou.
Ça leur fait la pute à cause de toi, je te nique.
Carmen, depuis qu'elle arrivait, elle prend toute la place. Toi, tu vois rien. En fait, tu me veux auprès de toi.
Bonjour Prince Yakar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à la veille de la sortie de ce film, Les filles désirent, dont nous venons d'entendre une partie de la bande-annonce. Alors, il faut imaginer ces échanges, ces éclats de voix sous la lumière de Marseille, qui est bien plus qu'un cadre ou un décor ici. Quel est votre rapport à cette ville ?
C'est marrant d'écouter la bande-annonce et de ne pas
sans
la regarder.
Ouais, oui.
Mais c'est assez étonnant, ça marche bien, elle est bien.
Oui.
Alors Marseille, moi j'ai grandi à Marseille. Mes parents ont j'ai grandi dans une troupe de théâtre dans les quartiers nord, donc c'est un peu paradoxal parce que dans les quartiers nord, l'art n'est parfois pas facilement invité. Mmh. Et pourtant, c'est là-bas où j'ai grandi et c'est là-bas où j'ai rencontré les jeunes acteurs et actrices de ce film qui sont aussi collaborateurs à l'écriture. Il y a 8 ans, comme vous disiez, on s'est rencontrés un peu par hasard dans un atelier d'écriture. Et depuis, on s'est pas quitté. On a fait des tas de formes courtes ensemble, voilà, jusqu'à coécrire ce long métrage, parce qu'en fait, on a fabriqué une manière très singulière d'écrire participative, avec voilà de grandes impros et tout ça sur le plateau de théâtre de mes parents qui nous ont invités dans les quartiers nord. Voilà, donc Marseille, c'est tout ça pour moi.
Alors. Vous y avez grandi, vous êtes parti étudier ailleurs, vous êtes revenu, je crois, en 2017, et c'est là donc qu'a commencé l'aventure qui conduit jusqu'à ce film. Ça commence avec des ateliers, on vous propose de mener des ateliers. Comment ça s'est passé? C'était où? Comment ça a commencé tout ça?
Alors, ils avaient 14 ans quand je les ai rencontrés. Et donc, c'était dans les fameux quartiers nord de Marseille, donc les quartiers dits sensibles. Et on m'a proposé vraiment un peu par hasard d'animer un atelier et en un mois de faire un film. Et j'avais jamais fait ça. Moi, je revenais de Paris. Je sortais des études quasiment. Et donc, un peu intuitivement, je leur ai proposé de faire de grandes improvisations que j'ai toujours filmées. Je ramenais tout ça chez moi, je dérochais, j'écrivais un peu, et à l'atelier suivant, je ramenais un bout de séquence qui s'appropriait sur table, et ensuite il retournait sur scène, il réimprovisait, je filmais, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fabriqué notre manière de faire, et qu'on a constitué il y a 8 ans notre troupe de création.
Oui, voilà, c'est ça. Vous avez parlé de vos parents qui ont donc créé la troupe de théâtre, l'agence de voyage imaginaire. Vous avez grandi dans cet univers. Vous êtes allé du côté cinéma, mais avec cet esprit de troupe que vous avez apporté dans votre manière de faire du cinéma. En fait,
c'est hyper solitaire et hyper long d'écrire un long métrage. Et donc, intuitivement, j'ai contrecarré ça. Et après, j'ai un peu recopié mes parents et j'ai formé ma propre troupe et c'est assez exceptionnel. Et c'est une chance que j'ai qu'ils m'aient suivi, en fait, pendant 8 ans. Moi, je leur ai donné beaucoup d'ateliers, mais eux, ils m'ont suivi coûte que coûte jusqu'à ce long métrage.
Et ils sont bien avec vous. Et justement, parce que c'est collectif, on les a appelés hier pour les entendre quand même. On va les écouter un peu tout au fil de l'émission.
Trop bien.
Dans cette grande aventure-là, il y a un moment important sur lequel on peut peut-être s'arrêter. C'est un des courts-métrages que vous avez fait avec eux, Barcelona, sélectionné au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand,
ouais,
en 2018-2019. C'est à ce moment-là que vous avez participé à la création d'une école, d'une académie qui s'appelle Movida. Qu'est-ce que c'est cette école et pourquoi l'avoir créée?
Donc en fait, suite à ce court-métrage et suite à cette rencontre, on s'est dit on veut continuer ensemble. Et justement pour répondre à un manquement de culture dans certains quartiers, bien qu'il y ait beaucoup d'associations marseillaises qui œuvrent, on a ouvert cette école un peu alternative. C'était des cours du soir où un peu tout était permis à l'inverse de l'école, c'est-à-dire on pouvait arriver en retard, on pouvait partir en plein milieu, ne pas revenir la fois d'après, revenir la fois suivante, avoir une casquette, machin, chewing-gum. Enfin, le plus important, c'était une fois qu'on est là, on est engagé, on est créatif, on donne, on s'amuse. Et voilà, les jeunes acteurs de ce long métrage qui étaient les acteurs de ce premier court métrage ont été la première promotion de cette école. Et c'est fou parce que ces jeunes-là, je les ai rencontrés donc il y a 8 ans. Ensuite, j'ai donné des ateliers pendant toutes ces années-là. Mm-hmm. J'en ai vu des centaines, mais les premiers jeunes que j'ai rencontrés sont les derniers.
C'est la famille.
Ouais.
C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà. Alors, ce film est donc vraiment un film de groupe, mais il y a, disons, 3 personnages principaux. Omar, qui est un peu le chef de la bande. Alors, pas dans le sens chef de gang, hein, mais il est le plus responsable, le plus raisonnable, celui que l'on écoute. Il y a Yasmine, qui est son amoureuse. Une fille bien, comme ils disent. Ouais. La seule de la bande. Jusqu'au retour de Carmen, qui avait quitté le quartier depuis plusieurs années et dont le retour va tout ébranler. Étant donné ce que vous nous avez dit sur la manière dont vous avez travaillé, comment êtes-vous arrivé à ce sujet pour ce long métrage?
J'ai rencontré un groupe, en fait, qui était formé essentiellement de garçons, et il y avait 2 filles qui, à l'époque, représentaient un peu les 2 filles de ce long métrage. Et en fait, j'ai éprouvé à leur contact pendant 8 ans les 2 faces d'un groupe, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement puissant, qui nous porte, en fait. C'est très précieux d'être à leur côté, et à la fois, comme dans tout cercle d'influence, certaines limites, certains enfermements, et notamment sur la question de la femme. Et ensuite, par la création, par le jeu, j'ai vu que c'est ces sujets-là qui les tenaient à cœur, malgré une grosse pudeur. La création les protège et leur permet justement de parler de tout ça. Et en fait, c'est avant tout des ados désirants, aimants, et qui sur scène se sont libérés et avaient extrêmement envie de détricoter et de réfléchir à tout ça. C'est venu au fur et à mesure, en fait. Ça s'est imposé à nous par le jeu et sur scène.
Alors, on va écouter Léa Aïchour, qui joue Yasmine, l'amoureuse d'Omar, donc, et qui nous a parlé de son personnage.
La première fois que je l'ai vu, enfin que j'ai lu en tout cas le personnage, je crois que je devais avoir peut-être, peut-être 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Et du coup, moi, j'étais assez contente. En fait, je me retrouvais assez dans ce personnage à l'époque. Et j'avoue qu'au fur et à mesure des années, en fait, elle s'est un peu plus affirmée et moi aussi, j'ai beaucoup changé. Donc, au niveau des dernières versions, au début, les premières fois que je lisais, j'étais assez dubitative de ce personnage que je trouvais un peu trop soumise, entre guillemets, et beaucoup trop passive dans ce qui se passait autour d'elle, que je trouvais effarant, en tout cas pour moi, surtout ce qui se passe au début du film. Donc, j'étais pas non plus hyper fan. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris, en fait, dans tous ces mois d'écriture et de jeu, en fait, à la comprendre et à me comprendre, parce qu'en fait, j'ai été beaucoup comme ça plus jeune. Et donc, avec beaucoup de recul, en essayant de comprendre l'aspect du personnage et j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus et à comprendre les raisons qui font d'elle ce qu'elle est. Et du coup, bah maintenant, je l'aime trop, mon personnage. Mais j'avoue, au début, j'ai pas toujours été d'accord. Même jusqu'au dernier moment avant le tournage, quand on a fait la lecture sur table du scénario avec toute l'équipe, il y avait plein de trucs pour lesquels j'étais pas d'accord. Et au final, en fait, c'est dans le jeu et au niveau du montage final que tout prend sens.
Léa Aïchour qui joue donc Yasmine, c'est intéressant ce qu'elle dit, Prince Yakar. Parce que bien sûr aussi ils ont grandi, ces jeunes, entre le début du projet et la sortie demain. Et donc forcément leur regard sur les personnages, sur le sujet, sur ce qui est en jeu dans ce film a évolué.
Tout à fait. Et en fait, pour créer une fiction, on est obligé d'augmenter les curseurs et de faire des personnages de départ presque un peu caricaturaux pour poser une question, pour la poser de la manière la plus flagrante. Et après, le film détricote cette question-là. Mais du coup, c'est vrai que eux, ils incarnent des personnages qu'ils ont appris à connaître pendant des années et avec qui ils ont pris de la distance et donc ils sont pas d'accord avec le début du film. Ils sont plus d'accord du tout, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Et en même temps, c'est aussi ça, le cinéma. Et Léa, hier, dans la suite de notre discussion, a dit ça aussi. C'est que ça consiste aussi à jouer des personnages avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est le principe.
Bien sûr. Et c'est aussi le principe de la fiction. Et voilà. C'est aussi ce qui nous permet de prendre du recul aussi sur nos propres vies. En fait, on s'est inspiré de choses qu'on a vécues ensemble et de choses qu'eux, ils ont vécues. Et après, on a écrit une fiction, notamment avec la co-scénariste Léna Mardi qui est rentrée, qui nous a permis de poser des questions romanesques, en fait, décorrélées finalement de leur vie.
Alors en effet, Yasmine, ce personnage dont Léa parlait, au début elle est réservée, elle est parfaite, elle se prépare à être l'épouse parfaite, sans forcément se poser dans un premier temps la question de son désir à elle, sans vraiment se demander si tout cela lui convient.
Tout à fait, en fait elle répond à l'étiquette qui lui est attribuée dans ce groupe, qui est la jeune fille parfaite, sage, exemplaire, et qui est l'épouse d'eux. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'au début, en fait, elle n'a pas de libre arbitre. Parce qu'elle elle joue le jeu de cette épouse, et en fait, il y a un endroit, jouer le jeu d'une étiquette dans un groupe, c'est assez agréable, parce que c'est aussi appartenir à un groupe, être aimé, être respecté, être soutenu, être bien vu. Il faut du courage pour s'éloigner de certaines étiquettes, et c'est ce qu'ensuite elle va faire pendant le film.
Vous l'avez dit déjà en interview, c'est la maman et la putain, hein, les filles avec lesquelles on se marie et celles avec lesquelles on couche. Mais, et c'est cela qui est intéressant, Omar, même s'il a le pouvoir, entre guillemets, lui aussi est dans des schémas qu'il n'arrive pas forcément à interroger.
Tout à fait. Lui aussi, en fait, il joue le rôle. Alors lui, c'est le rôle du chef, c'est le rôle de celui qui doit être exemplaire, qui porte les problèmes des autres. Et en fait, qui a beaucoup de responsabilités. Il dirige un centre avec des petits. Et finalement, il n'a que 19 ans. Il est lui-même traversé par des tas de désirs qui, à 19 ans, sont difficilement définissables. Et en fait, il a tellement de choses à supporter qu'il n'arrive même plus à savoir ce qu'il veut vraiment, et donc il est victime lui-même de ce qu'il impose aux autres.
Il s'occupe de ses petites sœurs à qui il raconte des histoires de princesses, il veut se marier avec Yasmine, donc ne pas coucher avec elle avant, même si cela crée chez lui de la frustration. C'est très important pour lui que sa mère rencontre Yasmine et approuve ce mariage à venir. Donc les injonctions contradictoires aussi que subissent les filles, on les retrouve d'une certaine manière chez les garçons.
Tout à fait. En fait, c'est vraiment, j'ai essayé de raconter le poids du groupe et finalement, sans faire de différence entre les garçons et les filles, pour dire en fait, évidemment, les garçons véhiculent beaucoup de discours qu'on condamne, mais ils sont eux-mêmes pris au piège par ces discours-là. Et à la fin, enfin, je veux pas spoiler, mais le personnage principal implose, en fait, parce que c'est trop lourd, surtout parce qu'il a que 19 ans, c'est ça qu'il faut aussi se rappeler, ils sont très jeunes, en fait.
Et tout vacille donc quand arrive Carmen, que l'on retrouve ici dans une scène au Vallon des Ouffes, au bord de la mer.
Eh bé, décidément, le centre, le vallon, la drague de merde, avec vous, il n'y a rien qui change, hein. Ça dit quoi? Frère, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tu crois que c'est l'hôtel ici ou quoi?
Chercher du taf toute la journée, j'ai rien trouvé. Tu me casses les couilles, c'est bon? Oh, le mec, il a pris une belle ambiance. On disait quoi?
Eh, c'est elle, il veut brancher les copines en face.
Tu veux laquelle, toi?
Eh, je te mens pas, je veux elle avec la, le maillot sirène.
Mais non, mauvais choix, mon frère. T'es prêt à sortir les rames ou je t'en conseille une autre?
Ça va, tu sais, je t'en sors 45 de rames. Dis-moi juste laquelle.
Tu vois celle avec la petite pince là-bas, là?
Avec le ballon?
Ouais, avec le ballon. Tu vas la voir et juste tu t'intéresses à elle, tu poses des questions, t'habites où, tu fais quoi? Mais pas de là, là. Tu vas là-bas, là.
En fait, oh là, je comprends pas. Pourquoi tu viens? Tu te cales avec nous? Je sais pas.
Tu vois pas, je suis en train de parler. Tu peux pas me laisser terminer de parler?
Tu te cales avec nous? Tu crois que tu es un homme ou quoi? Tu nous parles de gadgets?
Est-ce que je te parlais à toi déjà? Comment ça, les garçons et les filles peuvent pas parler ensemble?
Tu fais la pute, en fait, dis-moi. Je comprends pas. C'est quoi, toi? Hein?
Mais comment tu parles, toi? T'as même pas les sous pour t'en payer une. Et les putes, elles baisent au moins.
Tarpe-moi, comment tu parles?
Parce que Tahar, il parle bien, là.
Parce que Tahar, il parle bien là, c'est Yasmine que l'on entend protester un peu à la fin de cet extrait. Louana Hamon, qui joue Carmen, a dit que pour cette scène, vous vouliez qu'elle prenne toute la place, plus que les cinq personnes qui sont autour d'elle. Qu'est-ce qui se joue ici, par exemple, dans cette scène-là, Prince Yakar?
Il se joue le retour d'une fille qui en fait qui est partie du groupe et qui du coup ne joue pas vraiment le jeu du groupe. C'est-à-dire qu'elle revient entière avec qui elle est. Et elle revient et elle dit « Moi, pendant 7 ans, j'ai fait la pute. » Et sans détour, en fait. Et c'est ça qui dérange énormément. Et pour autant, il y a un endroit, elle se met aussi dans cette case-là. Parce que je crois que la réponse n'est pas la case pute ou la case épouse. Et qu'en fait, la réponse est la case propre, individuelle. C'est un entre-deux. C'est là où notre propre désir nous mène. Voilà.
Ce sujet-là de la prostitution, parce que quand même c'est le fait qu'elle revienne et qu'on sache que entre temps elle s'est prostituée, c'est ça qui déclenche quand même, qui est un peu le nœud dramatique, on va dire, du film. Donc ce sujet-là, au-delà de raconter l'histoire d'un groupe de désir, etc., cette question précisément de la prostitution, ça commence à arriver dans les discussions que vous avez eues avec les jeunes.
Alors, c'est arrivé parce que on a rencontré certaines personnes qui en fait ont pratiqué la prostitution, et ensuite c'était aussi une manière encore une fois de rendre ce personnage encore plus saillant et de faire réagir les personnages masculins. C'est-à-dire si c'est juste une fille qui a couché qui revient. Voilà, il y a moins d'effets dramatiques que si c'est une fille qui s'est prostituée, parce que la prostitution aujourd'hui encore pose énormément de questions, et notamment sur le désir. Est-ce qu'on peut désirer une prostituée? Et en même temps, ça provoque énormément de désir chez les garçons. Donc il y a plein de choses contradictoires qui se passent en eux. Et ça, c'est créateur de conflits et d'histoires.
C'est à la fois, chez eux, à son égard, on est entre la fascination et le rejet. Il y a les deux, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Louana Hamon, qui donc joue Carmen, elle ne fait pas partie de l'aventure depuis 8 ans. Elle est arrivée pour le tournage et on l'écoute nous parler précisément de son arrivée dans ce projet.
Pour moi, ça a été un peu de stress, parce que déjà, au début, je pensais même pas que j'allais être prise. Donc, le fait que déjà, la réalisatrice m'appelle et me dise « Ok, bah, du coup, Carmen, c'est toi », ça a été une vague un peu de stress et de pression, parce que j'ai commencé à réaliser. Et donc, ensuite, je suis venue sur Marseille. Il y a eu 2 semaines de coaching avant que le tournage commence. Donc, j'ai rencontré les autres acteurs. On a fait des essais ensemble, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Au début, pour moi, c'était un petit peu compliqué, puisque j'étais pas... de Marseille, je les connaissais pas, et donc j'ai eu un peu ce décalage, on va dire. Mais par la suite, ils m'ont mis à l'aise et ça s'est super bien passé le tournage.
Avec donc en plus cette idée que en fait votre personnage, de toute façon, dans le film, il est aussi un peu en marge du groupe, donc ça collait finalement.
Mais oui, c'est pour ça qu'au final, ça collait super bien et je l'ai pris comme une force et je me suis dit, en fait, ce qui se passe là dans la vraie vie, cette situation un peu désagréable, instable, je m'en suis servi comme force pour dans le film, puisque je me suis dit, en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, là, c'est ce qui se passe dans le film, donc en fait, c'est parfait, ça colle, quoi.
Alors, elle n'avait pas d'expérience préalable dans le cinéma, Louana Hamon, ça n'est donc pas pour avoir une comédienne de métier que vous êtes allée la chercher. Est-ce que c'est parce que ce personnage, justement, devait revenir d'ailleurs, comme dans le film, ou l'explication est tout autre, Prince Yakar?
un peu des deux, en effet, le fait qu'elle arrive, qu'elle vienne pas du sud, qu'elle soit pas du groupe, voilà, qu'elle ait des manières d'être, de faire, de parler différentes, ça a recréé une instabilité dans le groupe qui est l'histoire du film, parce que nous on se connaît depuis tellement longtemps que il y a des choses qui s'installent, et pour le personnage de Carmen, il ne fallait justement pas que des choses s'installent. Et ensuite, après, c'est une vraie rencontre avec une personne, voilà, qui portait une certaine énergie qui correspondait tout à fait au personnage de Carmen. Donc voilà, un corps généreux, un corps très beau. Je la trouve très très belle. Une générosité aussi dans la manière de parler, dans la manière de donner, là aussi une liberté dans le fait d'aller puiser chez elle des choses intimes pour pouvoir jouer. Voilà, moi, quand je dirige les acteurs, je les connais depuis 8 ans, donc il y a une vraie confiance qui s'installe entre nous, et je sais que je peux tirer certaines ficelles de leur intime pour leur faire sortir des émotions. Et Luana est arrivée très tard, et cette confiance, elle me l'a accordée très vite. Et voilà, donc c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, Carmen ne pourrait pas être quelqu'un d'autre que Luana.
Et vous avez travaillé avec elle, justement, de la même manière qu'avec les autres?
Oui. Sans aucune distinction, elle est rentrée dans le bateau et c'était parti. Alors on a fait de grandes séances de coaching quand même avant le tournage, et là elle était déjà là, donc elle a appris en fait, mais j'imagine que pour elle c'était vertigineux, parce qu'on se connaît trop bien. Mais comme dans l'histoire du film en fait, rentrer dans un groupe où les gens se connaissent très très bien, c'est dangereux, et en fait nous on se rend pas compte qu'elle venait d'ailleurs, donc je sais qu'il y a des moments ça a été dur, et vraiment je lui dis merci d'avoir joué le jeu, d'avoir donné autant.
Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites là aussi, parce que le fait que vous ayez cette proximité, que eux se connaissent depuis très longtemps, parce qu'en fait eux, ils se sont connus avant que vous les connaissiez, ouais. Eux c'est vraiment des amis d'enfance, donc cette proximité qu'il y a entre eux et de vous avec eux, évidemment que ça conduit vers quelque chose de naturel dans le jeu, mais en même temps justement, Est-ce que des fois ça inhibe pas aussi, paradoxalement, parce que on se connaît tellement bien qu'on peut avoir de peur de blesser la personne, ou de il va mal le prendre si je fais ça. Ça peut arriver aussi, non?
Ça peut arriver, notamment dans l'écriture. Il y a plein de moments où j'ai eu peur d'écrire certaines choses, j'ai eu peur de les vexer. Et en fait, c'est là que rentrent en jeu aussi les personnes qui travaillent autour de moi. Donc, Léna Mardi, ma co-scénariste, Johanna Naon, ma productrice, qui, elle, en fait, était garante d'un récit. Et qui me disait, en fait, ce que tu écris, tu n'écris pas ta relation avec les jeunes, tu écris une histoire. Donc oui, moi, j'ai eu très peur de les vexer souvent. Voilà. Et après, par contre, dans le jeu, c'est vraiment l'inverse. Dans le jeu, et pour aller au plus près d'un réalisme, voilà, qui fait ce qu'est notre film aujourd'hui, il fallait qu'on puisse se faire confiance pour que je puisse aller tirer des choses où je savais comment déclencher le rire, comment déclencher la honte, comment déclencher les peurs. Et ça, sans se connaître, enfin, les pleurs, pardon, ça, sans se connaître, ça aurait été plus difficile.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats entre les jeunes comédiens et co-auteurs sur ce qui est dit, ce qui est montré?
Énormément. On a parlé, on a tout filmé. D'ailleurs, c'est en train d'être dérushé. On a 8 ans de rush. Et en fait, on était sur scène, donc on jouait les scènes, mais très souvent, ils s'arrêtaient. Ils se posaient, ils disaient, mais ça, c'est pas possible, en fait. Ça se passe pas comme ça.
Ouais. Et qu'est-ce qui était pas possible, par exemple?
Par exemple, des réactions. En fait, souvent, c'était aussi des incompréhensions entre garçons et filles. Et donc, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on échangeait les rôles. Et que les garçons prenaient la place des filles. Et ça, c'était le plus flagrant. Et là, d'un coup, ils se rendaient compte de la force de certaines phrases, en fait. Parce que du coup, les filles les regardaient et leur parlaient comme on passe dans certaines rues des grandes villes, notamment Marseille, et qu'on se fait alpaguer. Et les garçons, ils étaient là, mais en fait, me parle pas comme ça. Mais non, mais nous, on se fait parler comme ça à longueur de temps. Et ils se rendaient compte de la violence de certains discours. Que eux, en fait, emploient quand ils sont en groupe, principalement. Et pas quand ils sont seuls. C'est vraiment l'effet groupe. Qui fait tout ça. Sûr.
Alors, et quand il y avait débat, justement, à la fin, c'est vous qui tranchiez. Parce que quand même, même s'ils sont co-auteurs, et on y reviendra, mais voilà, à la fin, vous êtes quand même aussi, vous signez le film. Donc, il y a quand même un moment donné, on imagine, où il faut faire des choix. Ben, on est pour le projet, entourée. Quoi, pour la finalité.
Tout à fait. Ben, vraiment, je suis très bien entourée parce que moi, j'ai trop d'affect pour faire des choix et j'ai essayé de leur faire plaisir. Mais déjà, le fait que ce soit un film de groupe où il y ait 5 personnages, à la base, c'est pour leur faire plaisir et qu'ils soient le plus possible tous à l'écran. Et encore, j'ai réussi à ce qu'ils soient 5 ou 7, je sais plus, j'ai plus compté. Voilà. Mais après, voilà, encore une fois, vraiment ma co-scénariste Léna, heureusement qu'elle était là pour faire les choix du récit et non les choix des émotions.
Ils sont 7, je viens de...
7
Le choix du prénom Carmen, il y a du Bizet, du Mérimée dans ce choix ou pas du tout?
Ah bah si, ouais, évidemment, quand bien même. Sûr. Tous les prénoms, en fait, sont emblématiques, résonnent, si, bien sûr. Puis pour Luana, en fait. Après, c'est très important aussi, au début, dans le scénario de départ, il y avait leur vrai prénom.
Ah, ouais.
Et c'est là où Léna m'a dit non, ça c'est pas possible, en fait tu t'en mêles, c'est pas la vraie vie, c'est un récit en fait qu'on est en train d'écrire, donc hyper important pour prendre de la distance.
Donc Carmen, effectivement, c'est un choix lié aussi au personnage de Carmen, même si la fin est moins tragique, hein, on va pas la dévoiler, peut-être dire seulement qu'il y a précisément dans le film la volonté de ne pas donner raison au destin, d'une certaine manière.
En fait, il y a la volonté de donner la possibilité de vraiment choisir ce que intimement on désire et de ne pas ployer sous les injonctions, sous le groupe, sous la domination, autant pour les personnages masculins que pour les personnages féminins.
Et pas ployer sous une forme quand même de fatalité ou de déterminisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais vous disiez tout à l'heure au début, le personnage de Yasmine n'a pas de libre arbitre, mais un peu, c'est un peu le cas de tous. Et il y a quand même un peu ce côté tragique où on a le sentiment que voilà, il y a quelque chose qui les conduit sur des rails et que en fait, en sortir, dévier la trajectoire. C'est, il faut en avoir la volonté, même, c'est un effort, en fait.
Bien sûr, il faut être, c'est une prise de courage, en fait, parce que sortir à cet âge-là, on a très envie d'appartenir et d'être aimé. Et donc, le plus simple, c'est d'appartenir à des groupes. On l'a tous été quand on était ado. Et en fait, sortir de ce groupe, c'est perdre une domination, une certaine, un certain pouvoir, une place qui est dictée. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, c'est assez facile d'être dans ce groupe. Il y a des rails à suivre qui sont réconfortants.
Et au-delà du groupe, même, c'est aussi la question de ce dont on hérite. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les schémas, par exemple le personnage d'Omar, quelque part sa trajectoire, elle n'est pas seulement liée au groupe, c'est tout ce qui porte en lui aussi.
Bien sûr,
dont il faut réussir à sortir.
Oui, je parle du groupe pour essayer de ne pas réduire les personnages à leur à d'où ils viennent en fait, mais évidemment qu'il y a un héritage patriarcal universel que subit aussi ce groupe et aussi ces jeunes.
La comédienne qui joue Carmen hier nous disait que lors des avant-premières, des personnes du public venaient la voir en lui disant qu'ils avaient d'abord détesté son personnage avant de finalement s'y attacher.
Oh, wow.
En réalité, voilà, mais ça c'est aussi la vie. Bien sûr, aucun personnage dans ce film n'est d'une seule teinte, en fait. Est-ce qu'on pourrait prendre au départ pour des archétypes, et vous l'avez dit, il y a cette nécessité, on est au cinéma, donc de forcer un peu le trait.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait prendre au départ pour des archétypes, finalement n'en sont pas?
Eh bien, je l'espère. Et c'est comme ça qu'on a construit le récit, c'est pour poser des questions claires et ensuite rendre les personnages plus amples, en fait. Parce que eux, ils veulent répondre pour se faciliter la vie à des étiquettes, mais en fait, c'est pas ce qu'ils sont vraiment. Mmh. Et c'est ça que montre le film à la fin. Si c'est étouffant de vouloir répondre à ces archétypes-là.
Est-ce que cet aspect-là des choses, vous avez l'impression que ça, au bout d'un moment, ça transpire aussi sur... Justement, on l'a dit, c'est une fiction, les personnages ne sont pas les personnes, etc. Mais est-ce que quand même, tout ça, on imagine que ça alimente aussi leur vie de jeune adulte, au-delà de comédien-comédienne?
Non, mais bien sûr, on a essayé de prendre du recul, mais évidemment que le film se jouait devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. En fait, on a fait des tas de fictions pendant 8 ans, des formes courtes, et c'est pour ça que j'ai toujours filmé les à côté, parce qu'il s'est... Le long métrage, c'est quand même aussi un résumé de ce qu'on a vécu pendant 8 ans, et de ce qui nous a animés, de ce qui nous a questionnés, et voilà.
Les filles désirent votre film en salle demain. Prince Yakar, on se retrouve pour la suite de cette discussion à 12h45, juste après le journal de la rédaction qui arrive dans une minute.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Jusqu'à 13h aujourd'hui avec Prince Yakar, réalisatrice du film Les filles désirent en salle demain. Film qui se passe à Marseille, l'été, avec un groupe d'amis d'enfance, beaucoup de garçons, une fille, Yasmine, l'amoureuse d'Omar, le grand de la bande qui veut protéger, être responsable, mais qui est aussi dans une reproduction de schémas qui voit les femmes comme des mamans ou des putains. On en a parlé, groupe d'amis ébranlé par le retour de Carmen, qui avait quitté le quartier plusieurs années auparavant et qui entre-temps a été prostituée, ce qui ne demande pas de susciter des réactions à la fois de fascination et de rejet. Nous avons parlé aussi, avant le journal Prince Yakar, de votre méthode de travail en atelier dans les quartiers nord avec ces jeunes que vous connaissez depuis des années. Même si vous aviez tourné avec eux des courts-métrages, le tournage d'un long avec une équipe de production que vous n'aviez pas forcément précédemment, on imagine change quand même quelque chose. Et puis le fait d'avoir un temps donné aussi, un mois de tournage, je crois. Comment ça s'est passé, ce passage-là au long métrage?
On a eu 24 jours pour tourner. Ouais. Quand on écrit pendant 4 ans, c'est vraiment très peu. Donc en effet, il faut très bien s'organiser. Le film a été magnifiquement produit par Johanna Naon, ma productrice génie. Qui a su m'entourer d'une équipe, d'une très belle équipe. Mais après, quand même, en fait, quand on pratique pendant 8 ans avec les mêmes personnes, c'est-à-dire le premier jour de tournage, c'était à la fois, waouh, il y a 150 personnes autour de nous, c'est incroyable. J'exagère évidemment, on n'avait pas l'argent pour avoir 150 personnes. Et à la fois, c'était comme hier. Après, on a eu une méthode assez particulière pour retrouver leur énergie et leur réalisme qu'on avait dans l'écriture. C'est-à-dire, c'est qu'on tournait avec deux caméras dès qu'on pouvait à 360 degrés et on découpait très peu. On tournait de longues séquences et en fait, les acteurs on commençait souvent les scènes avant et on les finissait après la scène écrite. Les acteurs ne savaient pas quand j'allais dire couper. Et tout ça, c'est pour en fait leur laisser le temps de rentrer dans la scène, de nous oublier, de retrouver leur spontanéité et de surtout ne pas s'arrêter de jouer à leur dernière phrase. Et en fait, voilà, c'est moi qui disais couper au bout d'un moment. Et il y a plein de scènes du film aujourd'hui qui sont des scènes de fin, d'impro, et qui pourtant aujourd'hui sont dans le film.
Et le long, c'est aussi peut-être plus d'espace pour les silences ou pour tout ce qui ne relève pas de la parole, des dialogues, mais qui est aussi du jeu.
Tout à fait, et surtout pour un film de groupe. En fait, c'est un groupe très bavard. À l'écriture, c'est beaucoup, c'est un reproche qu'on nous a souvent fait, qui est un scénario très bavard, mais écrire les regards au scénario, c'est très compliqué. Et là, enfin, et notamment parce que si on avait deux caméras, chef opérateur Raphaël Vandenbusch, qui en fait a compris notre méthode, qui a compris comment on travaillait et qui a su se plonger dans notre énergie, a capté de nombreux regards. Et après, c'est aussi le rôle de la monteuse Flora Volpelière de distribuer et de recréer le groupe à l'image et notamment avec les silences, les regards et finalement. À ma grande surprise, le film est un petit peu contemplatif et pas tant bavard, ce qui est fou pour moi.
Le fait d'être vous-même marseillaise, de tourner avec des jeunes marseillais, marseillaises, d'écrire avec eux, est-ce que ça vous a protégé des clichés, à la fois clichés sur la jeunesse, sur Marseille, sur ses quartiers ?
On me pose beaucoup cette question, mais en effet, et puis aussi la question de la légitimité. En fait, je me suis jamais réveillée un matin en me disant je vais écrire sur les jeunes des quartiers de Marseille. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit ouais, j'ai la chance d'avoir une troupe autour de moi qui m'accompagne depuis des années et qui est ok de faire encore cet effort de collaboration à l'écriture jusqu'au tournage. Et donc en fait, oui, j'imagine que ça m'a évité plein de clichés, mais on a écrit sur une bande de jeunes traversés par des désirs, comme on a tous été traversés par des désirs à cet âge-là, avant d'écrire sur une bande de Marseillais. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui nous a évité des clichés.
Et ça commence avec les enfants du centre aéré qui chantent des chants de supporters de l'OM. Oui, dans la voiture, on écoute Alonso, mais ça, en fait, c'est... Ça, ce ne sont pas des clichés.
Mais c'est notre quotidien.
Voilà, c'est ça. Et en même temps, ces jeunes avec lesquels vous avez tourné, ils sont très enfants aussi, quand même. Et c'est d'ailleurs amusant que le cadre soit en partie un centre aéré dont ils ont donc la responsabilité pour l'été, parce que ce sont les grands, ce sont les grands par rapport aux enfants dont ils s'occupent, mais ce sont eux-mêmes des enfants encore, quand même.
Mais tout à fait. Et c'est un des poids du groupe très lourd, c'est cette responsabilité qu'on leur donne de gérer eux-mêmes des enfants, alors qu'ils sont des enfants. En fait, on oublie qu'ils ont que 19 ans, et c'est ça aussi qu'on veut rappeler dans ce film.
Alors, on l'a dit, vous l'avez beaucoup dit, les comédiennes et comédiens sont co-auteurs, ont participé à l'écriture. C'est précisé, les noms sont inscrits dès le début du générique, et on va écouter là-dessus l'une des comédiennes, Léa Aïchour, qui joue donc Yasmine, et qui nous a parlé de cela lorsque nous l'avons appelée hier.
Je sais que Princia n'est pas la seule à travailler de cette façon-là. Peut-être pas autant qu'elle l'a fait, mais c'est très souvent, moi, que j'entends des acteurs, du coup, qui aident un petit peu à l'écriture des dialogues avec les réalisateurs. Et c'est pas souvent que c'est dit de manière officielle. Donc là, le fait qu'on ait un contrat, en plus, on a quand même signé ce contrat il y a un bon moment, je crois, peut-être 4 ans. Peut-être 3-4 ans, je sais plus. Mais du coup, en fait, nous, on a signé un contrat de co-auteur. On a été rémunérés pour et du coup, on trouvait ça fou, en fait, de se dire que déjà, pour nous, c'est plus concret, de se dire qu'il y a vraiment un film qui est en train de s'écrire. Et nous, trop contents de se dire qu'en fait, on a un statut. Là, les noms de tous les co-auteurs sont écrits en gros au générique. Et du coup, il y en a plein. Moi, j'en connais même qui sont pas à l'écran. Mais qui sont crédités en tant que co-auteurs et à qui ça fait super plaisir, en fait, de se dire que leur présence dans le film n'est pas effacée et que tout le monde y est.
Elle a raison, non? C'est une chose de dire j'ai fait une œuvre collective, et puis c'est autre chose de créditer les noms, de faire signer des contrats.
Tout à fait, c'était une vraie bataille juridique. Alors, ils sont auteurs au forfait et pas co-auteurs, ça c'est la petite précision. Mais c'était une vraie bataille juridique, et surtout c'est qu'ils sont 12 en fait. Et faire signer 12 personnes, se mettre d'accord en fait sur les contrats avec 12 personnes, c'est très long. Et voilà, Johanna et moi, on s'est battus, et c'était une vraie volonté pour tout simplement reconnaître leur travail, et aussi pour les remercier de tout ce temps à mes côtés depuis 8 ans, en fait, qui est un temps de c'est pas bénévole, parce qu'il y a un an, enfin c'est bénévole, mais il y a un endroit, en fait, ils prenaient aussi des cours avec moi, donc on s'est donné beaucoup des deux côtés, mais quand même c'est très très important pour moi, et à chaque fois je suis touchée quand je vois dès le début du film leur nom apparaître. Et comme disait Léa, il y a certaines personnes qu'on ne voit pas dans le film parce que j'ai pas pu faire un film avec 50 personnages principaux, mais ils sont quand même crédités dès le début du film.
Alors, il y a quelques semaines, vous étiez à Cannes, donc, puisque le film a été présenté à la quinzaine des cinéastes, ce qui est une manière assez belle de boucler la boucle pour vous, puisque vous y étiez 10 ans auparavant en tant qu'assistante du producteur du film Mustang. C'est là aussi que vous avez rencontré ou en tout cas qu'est née l'envie de faire des films, et de les faire notamment avec les personnes que vous avez citées, votre co-scénariste
Léna
Mardi et la productrice Johanna Namon. Et donc Cannes 2025, alors c'était comment?
C'était fou, c'était trop beau, et puis on a eu la chance en plus de monter les marches alors qu'on n'était pas en officiel, et j'ai vu dans leurs yeux des étoiles, les familles suivaient en direct. En fait, c'est un énorme cadeau de se retrouver là-bas, c'est irréel. Voilà, il y a 10 ans avec Johanna et Léna, on s'est serré la main et on s'est dit un jour ce sera nous, mais c'était impensable. Et puis même avec les jeunes, on rêvait de comment on monterait, est-ce qu'on se tiendrait la main, comment on sourirait. Et puis voilà, ça y est, on y était, on a profité. C'est un moment où tout le cinéma du monde entier se retrouve, c'est précieux. On est très chanceux, chanceuses.
Alors, on ne l'a pas encore entendu, Oussam Mohamed, qui joue Omar. Il nous a parlé, lui, notamment, de ce que ça lui avait fait de voir le film après toutes ces années de travail, d'écriture et d'atelier.
Franchement, quand je vois le film, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Moi, je revois les années de travail depuis le début. On était des bébés presque. Princia nous a connus bébés. Et en fait, c'est un rêve. Nous, franchement, quand on parlait de faire un film, on y parlait, mais c'était un mirage, en fait. On en parle pour en parler, et en fait, on s'est pas lâché. Pour moi, l'histoire, elle est magnifique. Un travail de presque 10 ans jusqu'à en venir au grand écran. Quand j'ai vu le film, presque, on en avait les larmes, presque, parce que c'est un rêve. Et c'est aussi triste un peu parce que j'ai l'impression que c'est la fin d'une histoire, personnellement. Mais c'est que du bonheur.
Est-ce que c'est vraiment la fin d'une histoire ?
Moi, pour moi, non. C'est que le premier chapitre qui est terminé. Franchement, on ne s'est pas lâché depuis des années. Ce n'est pas pour finir. Là, c'était la cerise sur le gâteau, mais maintenant, il faut préparer un autre gâteau.
Alors, y aura-t-il un autre gâteau, Prince Akar ? Et blague à part, cette façon de faire du cinéma, est-ce que c'est la vôtre pour un bon bout de temps ou est-ce que vous allez avoir envie, à un moment donné, de partir vers autre chose ?
Non, ça y est, c'est la mienne. Hein. Comme la compagnie de mes parents, une fois qu'on y est, c'est pour la vie. Y a un prochain long-métrage qui est déjà dans les tuyaux et on va écrire de cette même manière collective. Là, ça y est, le rendez-vous est pris. Dans une semaine, ma co-scénariste descend à Marseille et on a rendez-vous avec tous les jeunes chez moi pour parler du prochain.
Donc les mêmes de nouveau.
Tout à fait.
Les mêmes jeunes qu'on va voir encore donc grandir et peut-être au bout d'un moment vieillir aussi, ouais. Pour raconter d'autres histoires. Un mot enfin sur ce titre, les filles désirent. Désir comme le désir, ça n'est pas un verbe, il n'est pas accordé dans le titre. Comment vous l'entendez, vous, ce titre ?
Tout à fait, en effet. C'est un, voilà, ni accordé, ni conjugué. C'est une manière, c'est le point de départ du film, une manière de retirer le libre arbitre aux femmes concernant leur désir.
Et c'est une chanson aussi.
De Vendredi sur mer, magnifique chanson.
J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désirent. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désirent. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'août. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi.
Les filles désirent, titre de cette chanson de Vendredi sur mer et titre de votre film Prince Akar au cinéma demain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu sur France Culture et merci à l'équipe des Midi, Léa Weisgruss, Lisa Dejode, Laura Dutèche-Pérez, Nina Gandara, à la réalisation Laurence Malonda, à la technique Ludovic Auger et Élise Le.
La possibilité de t'aimer comme gravir une montagne, je l'ai déjà envisagé. Tu peux sortir le champagne. Je veux commencer quelque chose de nouveau. Laisse-moi espérer un avenir plus beau. J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer. Toute seule, je te jure, voyage en solitaire. J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. Des histoires que tu t'inventes.